Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est le premier numéro, le premier thème, le premier sujet que nous commençons concernant le salut. C'est un thème, on peut dire, colossalement important. S'il est très important, et il est vrai, de pouvoir être guéri quand on est malade, il ne faudrait pas sous-estimer le thème du salut. Et nous allons donc essayer de développer ce thème en plusieurs volets. Aujourd'hui, nous verrons, pour commencer, quatre lumières qu'on essayera de voir ensemble. Et, bien entendu, vous comprendrez que j'aurai soin de vous citer un certain nombre de versets bibliques qui correspondent à l'importance du salut, parce que il y a des gens qui pensent que un prédicateur, un pasteur, un prêtre pourrait se permettre de raconter quelque chose de ses propres idées. Non. Il faut absolument être sérieux avec ces choses-là et nous baser uniquement sur la parole de Dieu. Très important. Chers amis, il y en a qui confondent la foi biblique et la force suggestive de la pensée. Alors, j'aimerais vous présenter quelques réflexions personnelles au sujet de notre foi commune. Toute personne possède de façon innée la faculté de croire ou bien de ne pas croire en quelque chose ou en quelqu'un. Une conviction religieuse, politique ou autre fait qu'une personne se range pour ou contre d'autres convictions. Il y a aussi ceux qui ne croient plus en rien, désespérés de la vie et désabusés. Ces personnes sont convaincues que tout va mal et que Dieu n'existe pas et qu'il n'y a plus d'espoir. Ces gens croient pourtant de manière évidente, mais à l'inverse de la foi évangélique. Cette manière de croire, elle est faussée, elle laisse les gens sans réponse à leurs questions et à leurs problèmes. L'incrédulité n'engendre pas la vie, mais l'amertume, la tristesse et l'insatisfaction. Ainsi, voyez-vous, il n'y a pas d'homme athée, puisque même l'incrédulité est en quelque sorte une conviction, mais celle-ci est à l'opposé de la foi biblique, c'est-à-dire de celle qui se tourne vers Dieu. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, verset 19, nous lisons le texte suivant. Que les démons croient eux aussi, et ils tremblent. Ainsi, le fait de croire que Dieu existe n'est pas suffisant. Encore faut-il que l'homme s'engage avec lui. Le cœur de tout homme reste ainsi un terrain favorable pour semer le moyen de motiver sa foi vers Dieu qui est l'unique et réel but et objet de la foi. La foi innée, elle restera stérile et sans fruit, sans but et sans motivation. Elle sera morte et inutile, à moins que l'homme se tourne vers le Dieu de l'univers qui a donné son Fils unique sur la croix du calvaire, afin de sauver tous les pécheurs du monde. J'aimerais vous donner quelques exemples de la foi authentique. Jésus-Christ a dit à une femme qui était venue le trouver afin de lui demander de guérir sa fille, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille a été guérie. Saint Matthieu, chapitre 15, verset 28. Le Seigneur Jésus a un jour admiré la foi d'un chef militaire. Notez Saint Matthieu, chapitre 8, verset 10. À une autre occasion, pourtant, Jésus-Christ s'étonne de l'incrédulité de ceux de sa race. C'est confirmé par saint Marc, chapitre 6, verset 6. Ainsi la foi qui décide de s'engager avec Dieu est une très bonne chose. Cette foi, elle peut être comparée à une perle de grand prix et à un trésor caché dans un champ. Les vrais croyants possèdent cette foi biblique qui leur apporte le salut et les réponses à leurs prières. Ces vrais croyants, ils possèdent une inestimable et inépuisable richesse. Ils sont heureux. Et voici une définition de la foi biblique. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est la confiance totale en Dieu et en Jésus-Christ. Saint Jean, chapitre 14, verset 1. Donc, ceux qui se confient en Dieu ne seront pas confus. Ésaïe 49, verset 23. Il est dit heureux l'homme qui se confie en Dieu. Psaume 84, verset 13. Mieux vaut se réfugier en Dieu que de mettre sa confiance dans l'homme. Psaume 118, verset 15. La foi doit toujours rester une dépendance de l'homme envers Dieu si elle se veut biblique. Ésaïe, chapitre 26, verset 8. Et vous pouvez noter Lamentations, chapitre 3, verset 26, ainsi que le psaume 130, verset 5 et 6. Elle est donc une relation filiale entre l'homme et son Père céleste. Là, à nouveau, notez psaume 73, verset 28, ainsi que Ésaïe, chapitre 49, verset 23. Elle est également un paisible dialogue, psaume 42, verset 2, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9, et 1 Jean, chapitre 1, verset 3. Elle est une douce communion qui produit la paix de l'âme. Psaume 131, verset 2. Ésaïe 30, verset 15. Et à nouveau, psaume 91, versets 1 et 2. La foi croit en Dieu, en sa sainte parole et en ses promesses. La foi est tournée vers le futur, car il espère les choses à venir. Premier épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 2, ainsi que 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 6 à 8. La foi est également une obéissance à Dieu. Romains, chapitre 1, verset 5, et le chapitre 16, verset 26. La foi est une persévérante confiance. Hébreux, chapitre 10, verset 36. Et la foi démontre des réalités invisibles chez celui qui vit vraiment sa foi et en harmonie de ce qu'il croit et de ce qu'il espère de la sainte parole de Dieu. Il est donc clair que notre confiance ne doit pas être mal placée, ni dans les mensonges, Jérémie 13, verset 25, ni dans l'or et les biens de ce monde, Job 31, verset 24, ni dans les hommes guérisseurs ou faux Christ et les diverses sectes, Jérémie 17, verset 5. Elle ne doit pas se fier à tout le monde. Premier épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 1. En tout cas, voici ce que la foi biblique ne peut pas être. Écoutez bien cela. La véritable foi ne doit pas se confondre avec une force énergétique ou un potentiel de puissance produit par l'homme. La foi n'est pas une force mentale. La foi n'est pas une pensée suggestive. La foi n'est pas une parole magique. Les paroles suggérées par la pensée humaine ne deviennent pas des emballages de puissance. La foi n'est pas une confiance en soi-même, mais uniquement en Dieu. Cela vaudrait la peine de le répéter. Donc, la foi n'est pas une confiance en soi-même, mais uniquement en Dieu. La foi n'est pas une dépendance envers Dieu, mais une entière dépendance du croyant envers son Seigneur. La foi ne fait pas de l'homme un dieu de l'Olympe ou de la mythologie. Elle ne fait pas du croyant un Superman, ni un mutant. Permettez-moi de vous laisser encore 3 exhortations glanées dans la sainte parole de Dieu. Il est dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Ne laissez pas votre foi être renversée. 2 Timothée chapitre 2 verset 18. Et conservez le mystère de la foi dans une conscience pure. 1 Timothée, chapitre 3, verset 9. Chers amis, selon la Bible, selon la sainte parole écrite de Dieu, être chrétien signifie appartenir à Jésus-Christ. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes, et ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. C'est pour affirmer leur appartenance à Jésus-Christ que des hommes, des femmes, des enfants utilisent à nouveau le signe du poisson. Ils ont accepté Christ comme sauveur personnel, et cela dialoguant avec leur Seigneur, leur Sauveur, chaque jour, suivant ses enseignements et suivant l'exemple de sa vie. Pour Christ, ils ont abandonné leur ancienne manière de vivre et ils ont reconnu leur état de péché. Selon la Sainte Bible, le péché, c'est avant tout vivre loin de Dieu, c'est de manquer le but fixé pour chaque être humain sur terre, être réconcilié avec Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous vous en supplions donc, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le vrai chrétien, ou les vrais chrétiens, se sont reconnus coupables et ils ont reçu son pardon. Ils sont donc maintenant conduits par l'Esprit de Dieu qui leur donne la certitude de la vie éternelle et la force nécessaire pour vivre chaque jour une vie nouvelle avec Dieu. Ils savent que Jésus-Christ a voulu être puni à leur place en montant sur la croix. Ils se sont donnés à lui et ne vivent plus pour eux-mêmes, mais permettent à Jésus-Christ ressuscité de vivre à travers eux. Un feu brûle donc dans leur cœur, car ils savent qu'il n'existe qu'une seule solution. Oui, qu'une seule solution au problème de la vie et une seule possibilité de salut pour tous les hommes, c'est Jésus-Christ. Voyez-vous, la Bible l'exprime sans aucune ambiguïté. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui à cause du péché. Chers amis, vous qui écoutez ce message, êtes-vous sous la colère de Dieu ou possédez-vous la vie éternelle, parce que vous croyez en Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Sachez que Dieu vous appelle personnellement. Il ne s'inquiète pas de votre opinion au sujet du christianisme ou des chrétiens. Il vous voit et il juge votre manière de vivre. Cette vie, il vous l'a donnée. Elle est un cadeau de sa part. Dieu a indiqué à l'homme quel est le but de sa vie et il lui a montré comment il doit mener son existence. Vivre d'une manière agréable à Dieu n'est possible que si vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Sauveur. Oui, choisis la vie afin que tu vives. C'est ce que vous dit Dieu. Et encore, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Si vous voulez devenir chrétien, répondant ainsi au désir de Dieu, priez-le simplement comme votre cœur vous le suggère. Si vous êtes sincère et honnête, il vous écoutera et Christ se révélera à vous. Une vie vécue avec lui, ça c'est une vie épanouie, forte et dynamique. Vous le verrez, car Christ transformera vos façons d'être et de vivre. Il peut guérir, délivrer et redonner équilibre à toute vie désordonnée. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Crois-le de tout ton cœur. Et cela nous ferait du bien à tous de confesser tous les jours la sainte parole devant Dieu. Voici une confession que je désire partager avec vous et que j'ai faite et que je continue de faire constamment devant lui, devant le Seigneur. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis donc sauvé. Je suis en Jésus-Christ. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai maintenant un Père céleste. J'ai une nouvelle vie, la vie éternelle. J'ai un nouveau droit de cité, le ciel. J'ai une nouvelle sphère. J'ai été délivré du royaume des ténèbres et transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Je suis accepté dans le bien-aimé. Mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. J'ai donc une nouvelle puissance. J'ai le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne me fera aucun mal. J'ai le pouvoir de chasser tous les démons. Je peux imposer les mains aux malades et ils guérissent. Je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Je peux faire toutes choses par Jésus-Christ. Je confesse les nombreux bienfaits du calvaire. Béni le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne toutes mes iniquités. Il guérit toutes mes maladies. Il délivre ma vie de la destruction. Il me couronne de bonté et de miséricorde. Il me rassasie de bonnes choses et ma force est renouvelée. Tous mes péchés sont pardonnés. Toutes mes maladies sont guéries. Ma vie est préservée et forte en Dieu. Je suis couronné de sa miséricorde. Je confesse que je n'ai pas peur, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Je ne crains pas, car tu es avec moi. Je ne suis pas inquiet, car tu es mon Dieu. Tu m'aides, oui, tu me fortifies. Tu me soutiens de ta droite toute puissante. Tu ne m'as pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour, un esprit saint. J'ai l'esprit de puissance en moi. J'ai l'esprit d'amour en moi. J'ai un esprit saint en moi. Le sang de l'agneau est donc sur moi. Le Seigneur marche devant moi. Jésus-Christ est en moi par l'Esprit Saint. L'ange de l'Éternel campe autour de moi. Sous moi sont les bras éternels de Dieu. Et la bonté et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Alléluia! La crainte n'a plus de place dans ma vie. Je confesse que c'est une bonne journée, car je suis guéri aujourd'hui. Je suis rempli de l'amour de Dieu aujourd'hui. Je suis rempli de la joie du Seigneur aujourd'hui. Je suis rempli de la paix de Dieu aujourd'hui. Je suis rempli de la sagesse de Dieu aujourd'hui. Je suis rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. Tout cela m'appartient aujourd'hui. Je confesse aujourd'hui que j'aiderai quelqu'un à trouver la grâce et la miséricorde de Dieu, car la Sainte Bible dit « Tu es sauvé pour servir. » Alléluia. Je vais me réjouir aujourd'hui de ce que le ciel est ma maison. Je vais me réjouir aujourd'hui de ce que toute ma famille vient dans la bergerie du Seigneur. C'est ma confession. Je la dis hardiment en face du diable, en face des anges, en face du Seigneur Jésus et de Dieu mon Père. Je te remercie, Père, dans le saint nom de Jésus-Christ, de ce que j'ai, ce que je dis. Ma confession se lève devant toi, basée sur ta sainte parole. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de ma confession. Il l'accomplit aujourd'hui. Cher ami, cher ami, fais, je t'en supplie, cette confession hardiment tous les jours à haute voix et tu découvriras que Dieu tient sa parole, car le miracle est dans ta bouche. Chers amis, oui, savez-vous qu'être chrétien ne vous donne aucune garantie pour aller au ciel, ni le fait d'aller à la messe tous les dimanches matins? Oui, on peut dire, il y a deux sortes de chrétiens. Georges Clemenceau a dit un jour, si tous les chrétiens de nom devenaient des chrétiens de fait, il n'y aurait plus de questions sociales. Savonarole, le fougueux prédicateur du 15e siècle, il avait proclamé qu'il y a deux sortes de chrétiens, ceux qui croient sincèrement en Dieu et ceux qui tout aussi sincèrement croient qu'ils croient quelque chose. Mais c'est dans les moments décisifs qu'on les reconnaît, précisait-il. Dans le vocabulaire français, il n'y a pas de mot plus ambigu que le terme « chrétien ». Il signifie à la fois « tout » et « rien ». Tel dictionnaire très usuel le définit ainsi. « Qui est baptisé et qui confesse la religion du Christ et qui appartient à cette religion. » « Êtes-vous chrétien ?» demandait un jour à un de mes amis. « Oui, je suis chrétien comme tout le monde. » « Alors dans ce cas, si vous êtes chrétien comme tout le monde, écoutez bien. Permettez-moi de vous dire que vous ne l'êtes pas du tout. » Il y a trop de chrétiens de nom qui pensent que parce qu'ils ont été baptisés, catéchisés et qu'ils ont satisfait à certains rites, ils sont chrétiens. Mais entre les chrétiens de nom qui pensent et les chrétiens de fait, entre les chrétiens qui croient sincèrement en Dieu et ceux qui très sincèrement croient qu'ils croient quelque chose, il existe une différence considérable, autant qu'entre le jour et la nuit. Vous ne vous en êtes point peut-être aperçu ou rendu compte, mais Dieu, lui, ne s'y trompe pas. Et l'important, ce n'est pas ce que nous croyons, mais ce que Dieu voit. Tertullien, oui, je dis bien, Tertullien, converti au Christ vers la fin du deuxième siècle, écrivait à ses païens « Autrefois, j'insultais la religion chrétienne comme vous le faites aujourd'hui. Nous avons tous été des vôtres, car on ne naît pas chrétien, mais on le devient. » C'est une affirmation péremptoire. Car voyez-vous, pour être chrétien, il faut d'abord le devenir. Non pas par un endoctrinement ou un embrigadement, non pas par des rites religieux, non pas non plus en se recouvrant d'un vernis de christianisme ou de porter une croix autour de son cou. Il faut devenir chrétien. Alors la question se pose, mais comment cela? Tout simplement par la conversion personnelle de tout son être à Jésus-Christ Il faut en premier lieu sentir sa profonde misère, son indignité, ses faillites, son péché face à Dieu qui est saint. Il faut se repentir de tout cœur et puis recevoir Jésus-Christ comme sauveur, croire que lui seul sauve et transforme la vie. Il faut tenir pour certain qu'il a porté notre condamnation sur la croix, attestant le pardon divin et nous communiquant la vie éternelle. Dès lors, par l'action du Saint-Esprit, on meurt à son vieux genre de vie et on naît à une vie nouvelle. On est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Paix et joie inondent notre cœur. Nous connaissons enfin le vrai bonheur. Nous vivons sous l'action du Saint-Esprit en conformant notre vie au code de Dieu. Je veux dire à la Sainte Bible. Et croyez-moi, cela en vaut la peine. Certainement, c'est l'aventure la plus merveilleuse que vous puissiez jamais vivre. C'est le bonheur le plus réel que vous puissiez connaître. C'est l'expérience la plus sublime que vous puissiez goûter ici-bas. Par la foi en Jésus-Christ, vous aurez le pardon, vous aurez la libération de toute passion, de tout esclavage, vous aurez la confiance en la toute-puissance de Dieu, vous aurez l'espérance glorieuse du ciel, l'amour, la joie, la paix, la vérité, la vie dont vous êtes assoiffé. Une personne disait, « Oh, je donnerai tout ce que je possède pour recevoir le bonheur que vous avez. » Eh bien, chers amis, commencez par donner au Christ votre cœur, votre âme, votre esprit, toute votre vie. Faites-le maintenant en lui disant la prière suivante. Seigneur, je veux vivre non plus comme un chrétien de nom, ni comme un incrédule, mais comme un chrétien de fait. Je crois en toi. Je te donne toute ma vie. Oh, purifie-moi de mes péchés et transforme-moi. Je te reçois comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Je crois que tu es vivant et je veux t'aimer. Et surtout, maintenant, je veux te servir. Gloire à Dieu. Amen. Amen.